MC, PLM et tous les compagnies, bon, PLM par-ci, PLM par-là. Oh, ça va, on a le droit d'exister un petit peu ou pas?
Le Super Football Show.
Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Oh, nom de Dieu, bordel de merde, que c'est bon! Bordel!
Nicolas Villas.
Nous revoilà, re en la vive pour l'after. On est ensemble jusqu'à minuit. Marseille vient de s'imposer 2-1 à Toulouse. L'une des affiches de ce dimanche, cet après-midi, Lyon a battu Caen 1-0. Victoire de Nice à Guingamp 5-2, avec notamment un quadruplé de Pléa au classement. Marseille reste troisième et reprend, enfin garde 5 points d'avance sur l'Olympique Lyonnais qui est donc quatrième. À la cinquième place, on a Nantes avec 43 points. À la sixième place, on a Rennes avec 42 points. Et on a Nice, qui était à un point seulement de la cinquième place. Donc les Niçois, qui sont eux aussi à 42 points. Pierre Ducrot est toujours avec nous. Rebonsoir, Pierre Ducrot. Rebonsoir, Daniel Riolo. Tu enchaîneras avec le RMC Poker Show dans la foulée de cet after, bien entendu.
Salut les amis.
Oh, ça va?
Ouais.
Ça roule?
Ouais.
Je sais pas, tu souris.
Non, c'était une journée tranquille. Une vanne, j'ai trouvé, c'était peinard.
C'est vrai, t'as bien aimé. T'as apprécié.
Il n'y avait pas de... de gros chocs.
Ah non, c'était hier les histoires.
Ouais, 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 ouais. Le match de Lyon, on s'est ennuyé, ils ont gagné. Donc en fait, tout est fait pour que ça nous prépare bien au match de dimanche prochain. C'est bien, tu vois. Oui. Bon, les Lyonnais vont dire, ouais, mais si on voulait vraiment que ce soit un peu plus chaud, il fallait que l'OM concède le nul ce soir. Comme ça, ça rendait le truc un peu.
Ouais.
Bon, l'OM a gagné logiquement son match aussi. Voilà, c'est une petite
soirée. Ouais, ils ont souffert un peu quand même. Hein. Ça n'a pas été, si facile.
Ouais. Du match, ouais, ouais. Ouais, un moment.
Ils ont été chercher.
Je donne quelques résultats à l'étranger. Sachez qu'Arsenal a battu Watford 3-0, que Tottenham a battu Bournemouth 3-1, que l'Atlético a gagné 3-0 face au Celta avec un but de Griezmann, que la Juve a gagné 2-0 face à l'Udinese avec
nouveau leader de la Serie A.
Oui, avec un doublé de Dybala, qui est 0-0 entre l'Inter et le Napoli.
Ouais, c'est franchement, si Naples, ils se font marronner cette année. Avec tout ce qu'ils
Cagliari, Lazio, il y a eu 2-2. La Fiorentina a gagné 1-0 face à Benevento. Leur match très émouvant, hein, puisque c'était la reprise en Serie A après le décès d'Astori. Beaucoup d'hommages lui ont été rendus. Et le CSKA Moscou s'est imposé 3-0, adversaire de Lyon en Ligue Europa face au Armat Grozny.
On s'inquiète ou pas?
Parce qu'il y a eu 3-0?
Bah, s'ils ont gagné.
Hein. Dans
ces cas-là, ça peut se vendre un peu comme une inquiétude.
Je veux pas de problème avec Twitter.
On peut vendre comme une inquiétude.
Non, je veux pas de problème. D'accord. Sur Twitter.
Je sens Daniel en forme.
Non, pas du tout. Non.
C'est vrai?
Tiens, et sachez qu'il y a 7 minutes entre Passos de Ferreira et le FC Porto. Ouais. Et Porto
toujours
est mené 1-0. Ouais. Et Brahimi a raté un penalty.
Porto est mené 1-0.
Porto est mené 1-0.
Ah oui, je crois qu'il y a dit Porto mène 1-0.
Porto est mené 1-0 à Passos. Et ça ferait qu'il y aurait que 2 points d'écart entre Porto et le Benfica. Messieurs, on va débuter par le plus important. Et le plus important, c'est les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Ah
ouais. C'est toujours aussi génial, ce générique. Daniel Riolo, tes 3 points ce soir.
Mon premier concerne un moment du match important. À un moment, justement, le match pouvait basculer des deux côtés, il me semblait. C'est les changements de Rudy Garcia. Il a senti qu'il était en train de perdre des points et est allé chercher son match avec Payet et Mitroglou. Et Mitroglou, on se souviendra peut-être
et
de lui.
Et Amavi qui fait une bonne entrée aussi, je trouve.
Oui, mais bon, comme il dans l'affaire des buts, c'est vraiment Payet et Mitroglou.
Mais tu sais qu'ils sont trois, et Amavi aussi.
Oui, non mais...
Dans le but.
Mais bon, forcément, on s'arrêtera sur le but de Mitroglou. On se souviendra peut-être à la fin de la saison qu'il a apporté ses 3 points précieux. Donc ça, c'est mon premier point. Le deuxième, c'est sur le match de Lyon. Ça fait quand même pas mal de matchs. Au terme desquels les supporters lyonnais ne peuvent retenir que le résultat. C'est pénible hein, quand tu suis un club et il n'y a que le résultat que tu peux retenir. Parce que pour le reste, voilà.
Donc, ce qui est pénible, c'est que quand il n'y a pas de résultat, il n'y a plus rien.
Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai appelé mon troisième point Lyon-Micheline. C'est un peu la compta, c'est Micheline de la compta à Lyon. D'ailleurs, il faut se rappeler qu'à l'origine, l'expression Micheline de la compta avait été inventée pour l'OL.
C'est vrai.
C'est marrant, je dis toujours Bernadette pour la compta.
Ah ouais,
ouais, je sais pas pourquoi. Ouais, moi, c'est Bernadette, la compta.
Ça pourrait marcher aussi. Ouais. J'aime bien Micheline,
c'est
mais
cliché,
Bernadette,
mecs, hein.
Ça pourrait.
C'est vrai que c'est cliché, c'est sexiste, hein, ce genre de truc.
Ouais, c'est vrai, je sais pas si par les
mais moi, je vous le dis, les mecs.
Ça veut dire par définition que la.
Qu'une secrétaire est une femme.
Que la secrétaire.
Alors, moi, tu sais quand
c'est comptable, en l'occurrence.
À la compta.
C'est vrai.
Tu sais comment je vais m'en sortir.
Ouais, tu vois.
Tu sais comment je vais m'en sortir de ça, de vos affaires de sexisme, etc.
Non, c'est un peu tendancieux.
Tu vas dévoiler le matos.
Non.
C'est tendancieux.
Non, parce que ça. Ça poserait d'autres problèmes. Non, c'est pas ça. C'est que la comptable de ma société s'appelle Bernadette, tout simplement.
C'est vrai.
Eh ben oui, c'est vrai.
Mais pas.
Mais tu vas être raciste.
Mais non, avec qui on s'appelle comme ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Attends. C'est tendancieux.
T'es 3 points, Pierre Ducrot.
Et juste mon troisième.
Bah oui, peut-être.
Non, il est pas très important.
C'est pas parce que c'est un homme qu'on va pas aller au bout, quand même.
C'est juste pour dire qu'on est prêt pour le choc, parce qu'on attend que ça maintenant. Le match de dimanche prochain.
Et le Marseille.
Ah, il essaye de nous le vendre.
Non, mais il a raison.
Franchement.
Après, bah, oui, sauf que, effectivement, ça aurait été peut-être plus vendeur si l'OM avait concédé un.
Je pense que les supporters de l'OM, ils s'en foutent un peu que ce soit vendeur. Ils ont 5 points d'avance ce soir, c'est 5, ça? 5 bien compté.
5 points d'avance, ouais.
Voilà,
59 pour Marseille et 54
c'est terminé la semaine prochaine.
Je le répète comme tous les dimanches.
C'est terminé la semaine prochaine.
S'il est bat dimanche prochain.
Bah oui, bien sûr.
Tu veux que je le répète comme tous les dimanches ou pas? Au moment où on se parle, Marseille a 5 points d'avance sur Lyon. T'es 3 points, Pierre.
Et le même goal à virage.
C'est vrai, plus 25 pour les deux. Ouais. Ouais, même nombre de buts. Non, mais même attaque, même défense, même. C'est ça qui est dingue. Ouais. C'est au-delà du goal à virage, même. Ouais. Au-delà de la différence de buts.
Mes 3 points. OM, un groupe, j'ai mis en premier, parce que ça n'a pas été simple ce soir pour l'OM. C'est marrant parce que le match a été découpé en temps fort, temps faible. Il y a eu une bonne entame de match de l'OM pendant 20 minutes. Qui concrétise d'ailleurs par l'ouverture du score. Et puis après, ça a été plus compliqué, une défense un peu fébrile qui n'arrive pas à contenir les deux trois opportunités des actions des Toulousains. Puis ça met un peu tout le groupe marseillais en porte-à-faux. Mais l'état d'esprit qui anime ce groupe depuis maintenant très très longtemps cette saison a fini par faire la différence, aidé, c'est vrai, par les bons changements qu'on a apporté tout de suite.
Du banc rentre et tout.
Et ben ça, ouais, c'est ça.
Moi, j'aime bien ton premier point. Parce effectivement,
c'est
le groupe. Le groupe, ouais, c'est bon quand on entend parler les mecs au bord du terrain, ceux qui sortent, ceux qui sont sur le banc. Non, le groupe, il est solide.
Donc, deuxième point, Mandanda. Si je devais tirer une individualité du groupe pour que l'OM reste en vie ce soir, je pense qu'ils peuvent dire merci à Steve Mandanda qui a sorti des grands arrêts et au bon moment.
Ils sont tout près du 2.
Alors la fois on a fait aussi, mais moins et peut-être pas à des moments aussi.
Bah, il n'aura pas été décisif comme l'a été Mandanda.
Ouais, parce que les arrêts n'arrivent pas aussi au même moment dans le même timing pour le TFC malheureusement pour eux.
Les débuts de seconde période sont pas terribles l'OM.
Hein. Ouais, c'est pour ça ça a été difficile. Ça a été difficile.
On se dit c'est le match du jeudi et tout ça alors qu'ils avaient démarré rouleau compresseur, pied au plancher. Début de match, putain, est-ce qu'ils veulent se mettre à l'abri direct parce qu'ils sentent qu'ils vont être fatigués après?
Ouais.
Ils ont eu un coup de moins bien ou est-ce que c'est Toulouse aussi qui à ce moment-là a peut-être mieux joué? Et ils ont terminé très bien.
Tiens, finissons les 3 points
et mon troisième point, Lille tristesse parce que honnêtement, dans une période où on a suffisamment de mauvaises nouvelles, des vraies, vraies mauvaises nouvelles, voilà, on sait de quoi on parle avec ce qui s'est passé à la Fiorentina, ce qui s'est passé du côté de Tours avec le décès du jeune garçon du centre de formation, comment on peut être assez débile à un moment donné pour venir, alors non seulement envahir un terrain, parce que déjà c'est pas top, mais en plus crier le genre de choses que ces gens-là ont crié, quoi. Tu descends, on te descend, quoi. C'est, enfin, moi, je suis,
alors,
je suis,
si on descend,
on vous descend, ouais. C'est bon, c'est pareil. Vous m'avez compris. De toute manière, les mots importants, c'est, on vous descend. J'arrive même plus à comprendre, mais finalement, ce qui est triste, et c'est pour ça que je maîtrise l'île tristesse, c'est que je suis même plus surpris. Et que malheureusement, c'est pas que le football, c'est pour ça que je voulais en parler.
C'est pas qu'au niveau pro, surtout. Hein.
C'est pas qu'au niveau pro, c'est pas qu'au niveau foot. C'est, j'ai toujours pensé, et Daniel, on pourra en parler, ça m'intéresserait d'avoir ton avis aussi, mais j'ai toujours pensé que le foot était le parfait reflet de ce qui se passait en dehors. Souvent, on voit les problèmes de la société par le foot, et je trouve que une fois de plus, le foot est une parfaite vitrine de ce qui est en train de venir notre société à l'extérieur. Et ça me rend très triste parce que des gens sont assez débiles pour crier des choses comme ça, alors qu'il y a d'autres vraies raisons d'être énervé dans la vie que même qu'un club descende en Ligue 2. Bah, quoi.
On a souvent tendance à le dire ici aussi. C'est vrai que à un moment, ça reste du foot. Hein. Mais sachez juste que Jean Baumel a été avec Gérard Lopez. On l'écoutera d'ailleurs tout à l'heure, hein, Gérard Lopez.
Ouais, ce sera intéressant de l'entendre, effectivement.
Je vous donne mes 3 points également. Alors moi, il y en a un pour Pléa, pour deux raisons. Parce que c'est un quadruplé face à Guingamp qui l'a claqué aujourd'hui, et parce que cette victoire, elle est très importante pour Nice, on le disait. Ils reviennent à un point seulement de la cinquième place, et ça me fait penser à toi, notamment.
Ben, à chaque fois que Nice gagne,
depuis le début de la saison,
moi.
Quand Nice était au fond du trou, toi, tu disais, vous verrez que ces mecs-là, ils termineront sur une place européenne. Ils en sont plus très loin, les Niçois. C'est très important. Vous savez que Pléa, il avait une grave blessure la saison dernière. C'est le joueur le plus utilisé à Nice cette saison. Il a plus de
40 matchs
il a bien récupéré,
toutes compétitions confondues. C'est un joueur qui est très important. Ouais. Mon autre point, c'est la défense de Marseille. Alors parce que Marseille, ça fait bien longtemps, ça fait une douzaine de matchs qu'ils n'ont pas terminé une rencontre sans prendre au moins un but. Et on les a sentis hyper fébriles. Et quand je dis défense Marseille, c'est pour les soucis qu'il y a eu. Et ils peuvent dire merci à Mandanda. Tu l'as dit dans l'un de tes trois points également.
Après, je crois que la défense, enfin, mis à part aujourd'hui où la défense est un peu fébrile, effectivement, mis à part les matchs du Paris Saint-Germain qu'on met toujours plus ou moins à part pour les équipes qui affrontent le Paris Saint-Germain. Je crois que depuis un moment aussi, l'équipe de Marseille joue beaucoup plus vers l'avant, produit beaucoup plus dans le jeu, et c'est peut-être aussi de là que vient aussi un certain déséquilibre qui fait que l'OM concède plus de buts. C'est pas forcément toujours qu'une affaire de défense, c'est ce que je veux dire.
Non, c'est une animation défensive, d'un joueur en particulier. Et le dernier, c'est Coaching Garcia. Alors, parce que c'est vrai que les remplacements qu'il a fait aujourd'hui ont été inspirés, mais au-delà de ça, et Flo Germain nous l'avait raconté, il y a un truc qui avait été un peu mal vécu par le groupe de Marseille, c'était le coaching, ou plutôt le non-turnover qu'il avait opéré entre les matchs contre Braga en Ligue Europa et les matchs face au Paris Saint-Germain qui ont suivi. Bah là, il l'a bien fait. C'est-à-dire que, mine de le mec, il a géré sa semaine, quoi. Il a eu cette victoire 3-1 face à l'Athletic Bilbao, en 8e de finale de la Ligue Europa. Et là, cette victoire face à Toulouse qui est importante aussi. Et ces choix ont été fructueux. Il y a eu ce but de Mitroglou qui a été très conspué ces derniers temps et qui a surtout été longtemps blessé. Il y a eu la rentrée d'Amavi qui a fait du bien. Il y a eu la rentrée de Payet. Il y a eu le fait qu'il ait fait tourner aussi cette semaine. Et ça a bien pris de la part de Rudy Garcia.
Les changements de Garcia, ils sont... on les analyse de quelle façon? Il démarre le match avec une équipe remaniée parce qu'il faut reposer des mecs. L'équipe, au début, elle est bancale. Parce que le côté droit, on comprend pas très bien qui est sur ce côté droit, en fait. Ça a une tendance à beaucoup se recentrer. Autant côté gauche, au Campos, ça va. Côté droit, c'est moyen. Le changement, ils sont intéressants et ils sont importants. Parce qu'ils viennent à un moment où Marseille est un peu moins bien. D'abord, il rééquilibre l'équipe. Et après, il se dit, si je fais rien... Je sais pas s'il avait prévu de faire jouer Payet. Je pense que dans l'idéal, il aurait aimé ne pas lui.
Tu crois?
Il aurait aimé ne pas utiliser le gars puisqu'il avait besoin de se reposer. Non, mais imagine, il gagnait 2-0, il en avait pas besoin.
Oui, peut-être. Oui.
Voilà. Donc il se dit, il faut quand même le gagner ce match. Moi, c'est ça qui me plaît, c'est le côté audacieux parce que tu te dis, je peux pas me contenter du 1 partout. Tu peux, un peu calculer et te dire, écoute, on est un peu bousculé là, Mandanda vient de nous faire 2-3 arrêts. Si on fait 1 partout, on garde un écart confort avec Lyon, je vais pas prendre de risque. Le risque, il était pas dingue non plus de faire rentrer Payet pour 20 minutes.
Ouais, surtout que tu sens quand même, enfin, faut être aveugle plutôt pour pas le voir, c'est que il y a de l'espace laissé par les Toulousains de plus en plus en seconde période. Ouais. Et quand tu fais rentrer, alors Mitroglou, c'est pas pour l'espace, c'est plus pour faire ce point d'appui, cette finition.
Qui est aussi fatigué.
Mais à ma vie et Payet, c'est clairement pour bouffer
Payet,
ces espaces-là.
C'est important parce que Payet, je le trouve mieux depuis 2-3 matchs.
Ouais, c'est ce qu'on a dit pendant le match.
Sur une petite.
Il est mieux depuis janvier. D'ailleurs, c'est Garcia qui l'a dit avant le match.
Janvier, je suis pas tout à fait d'accord.
Ça va crescendo.
Les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Statistiquement, il est vraiment mieux depuis janvier. Il fait une belle saison. Hein, statistiquement,
tu prends tes précautions maintenant avec les chiffres.
Non, mais on a toujours fait gaffe. Mais c'est vrai qu'en termes de prestations aussi, il est mieux depuis quelques semaines.
Là, il est clairement. Et quand il rentre, il prend tout de suite les choses en main et il rentre à la place d'un joueur dont on a dit beaucoup de bien, mais que lui, pour le coup, je le trouve vraiment moins en forme. C'est Sanson.
Là aujourd'hui, il a eu moins d'influence.
Ça fait quelques semaines. Donc, homme en forme qui remplace un mec qui était justement censé tirer l'équipe et qui ne l'a pas fait. Et c'est payant rapidement. Et ça se termine par une victoire qui est très importante. Et tu remets un bel écart avec Lyon. C'est une soirée, je pense, pour l'OM absolument parfaite.
On va accueillir Antoine, supporter de l'OM, qui nous a appelé au 32-16 et qui est en direct avec nous dans l'after. Salut Antoine!
Salut Pierre, salut Daniel, salut Nico, salut à tous.
Et c'est son baptême dans l'after, Antoine, c'est ta première.
Ouh. Ouais, tout à fait, ouais. Et c'est une bonne première, du coup, avec une victoire, ça fait plaisir.
Eh ben voilà, bienvenue. Bienvenue. Qu'est-ce que tu retiens, de cette victoire, toi, ce soir, 2-1 face à Toulouse?
Alors moi, ce que je retiens, c'est que pour une fois, il y a un coaching gagnant de Rudy Garcia qui marche bien avec l'entrée de Payet et de Mitroglou. Mitroglou, je dirais que c'est un peu anecdotique son but, mais bon, ça fait quand même toujours plaisir, surtout pour lui. Après, surtout, on a sorti un gros groupe, vraiment un gros groupe. C'était poussif. Au début, on a bien commencé, mais après, c'est devenu un peu poussif. Le milieu, il n'y était pas. Gustavo et Sanson, clairement, c'était pas le match justement où les faire jouer. Je pense qu'il fallait peut-être un peu les faire souffler, même s'ils ont déjà soufflé jeudi. Puis surtout, j'ai senti des remplaçants bien concernés. Il y a personne qui tire la gueule quand il sort ou qui gueule un peu trop. À ma vie, quand il est rentré, il s'est caché le carton jaune. Ça, c'est une très bonne chose. Et puis voilà, je suis fier de mon Marseille, quoi. Ça y est, enfin, ils font plaisir après quelques années vraiment chiante. Vraiment, désolé.
Ah, voilà, tu sens un groupe.
Voilà, on sent vraiment une équipe, quoi, une équipe de foot. Voilà.
Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Et tu sais quoi, cet état d'esprit, il est né depuis le début de saison et il n'a cessé d'augmenter. Et à ça, ils ont rajouté au fur et à mesure, à chaque fois, par palier, certaines compétences. Ouais. Voilà, tactiquement.
Ça n'a pas commencé tout de suite au début de saison, quand même. Il a fallu.
Mais tu sais quoi,
et surtout à Nice. C'est Nice qui est formateur, le match.
Mais tu sais quoi, moi pourquoi je dis le début de saison, parce que c'est ce début de saison difficile. Voilà, il y a eu deux ou trois matchs difficiles au début, très très difficiles, notamment celui de Nice. Je pense que ça leur a servi au sein du groupe pour former quelque chose, pour former cet état d'esprit. Je pense que ça leur a servi.
Il faut quand même rappeler que Marseille n'était pas sur une très bonne dynamique. Hein. Ils avaient une victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compètes confondues. Ils restaient sur une défaite face au Paris Saint-Germain et un nul face à Nantes.
Deux même. Mais c'est
en championnat, je parlais.
Tu les as, d'accord, autant pour moi. Mais tu les as sentis résignés ou un groupe qui abandonne ou non jamais.
Au contraire, on l'a vu
jamais
Nantes, d'ailleurs.
Ouais, voilà. Donc c'est ce qui est important.
Tiens, j'aimerais bien avoir votre avis également sur Luis Gustavo. Il y a eu beaucoup de remarques, notamment encore là sur le hashtag RMC Live. Barquette qui dit attention, Gustavo est en dessous, énormément de déchets ce soir. La victoire ne doit pas faire oublier sa perf. Alexandre, fidèle de l'after, qu'on salue également. Gustavo vraiment pas au top, voilà. Ouais, il est pas bien physiquement depuis plusieurs matchs.
Il a porté le milieu pendant 4 bons mois, voire un peu plus. Physiquement, il est un peu moins bien.
Aujourd'hui, alors vraiment, si les 2-3 derniers matchs, il avait peut-être été un peu moins bien, moi je trouve qu'aujourd'hui, il a été très important. En plus, dans un milieu un petit peu remanié, moi je l'ai trouvé très performant. Et c'est sûr que quand un mec t'habitue sur...
C'est ce que j'ai dit pendant le match.
C'est
que le comparatif, il est très élevé.
Même plus. Ouais, 5 ans. Enfin bon, plus haut. Septembre, octobre, novembre, décembre, 4, 5, 6 mois, 5 mois. Le mec, il est extraordinaire. Et je pense même qu'il a contribué à mettre l'OM à l'endroit cette année.
Bien sûr.
Là, ok, il peut quand même. Parce qu'en plus, il joue beaucoup. Hein. Je sais pas si sur cette dernière saison, il avait enquillé autant de matchs.
Ouais, faudrait regarder.
Franchement, j'aimerais être sûr. Je le dis comme ça, sans avoir regardé. Je suis pas sûr que sur l'année, les deux, trois dernières années, il a joué autant de matchs que ça.
Je pense qu'il a quand même
c'est un joueur qui a toujours beaucoup joué, mais peut-être pas autant. Je sais pas.
Autant. Peut-être je me trompe.
Mais du coup, on compare effectivement avec cette grosse période qu'il a eue.
Ces performances-là, il a un ou deux matchs où il est un peu en dessous. Moi, là, je trouve qu'aujourd'hui, il a bien.
Je comprends ce que veulent dire les auditeurs. C'est
Antoine.
Ouais, Antoine. Non, mais il y en avait d'autres que tu avais cités, non?
Oui. Voilà. Il y avait Barquette et Alexandre.
Exact. Je pense qu'il a un peu plus de déchets du coup, parce que physiquement il est un tout petit peu moins bien. Il a un peu plus de déchets. Donc voilà. Mais toujours pareil, parce qu'il a été excellent pendant 6 mois. Donc quand il est un tout petit peu moins bon, bah forcément ça se remarque.
J'ai la stat, Daniel. Alors là, il en est à 43 matchs cette saison. 32 la saison dernière, 30 la saison d'avant, 47. Sur les deux dernières, non, celle d'avant il avait joué un peu plus. Bah, mais il tourne autour.
La saison n'est pas finie.
La saison n'est pas finie.
Non, elle n'est pas finie. Alors c'est-à-dire la différence,
c'est qu'il a explosé tout.
Il jouait pas la Coupe d'Europe à Wolfsburg notamment.
Non mais en l'occurrence.
Ben oui, il est bien parti pour.
Il va exploser les chiffres de ces 3 dernières années.
Il est bien parti pour.
Donc bon, voilà. Oh non.
Antoine.
Ouais.
Merci mon gars.
Ben merci à vous.
Tu voulais rajouter un truc?
Ouais, ben je voulais juste passer un petit coucou à mon pote Covin qui doit sûrement m'écouter en ce moment. Et lui il est né le 26 mai 93, il est supporter du PSG. Donc voilà, c'était juste pour lui faire un petit coucou. Le 26 mai 93, l'année où Marseille a gagné. Donc voilà.
Ouais, ça me fait marrer parce que je préfère entendre ça, effectivement. C'est bien.
Merci Antoine, évidemment. Bonne soirée à toi.
Allez, merci à vous. Ciao les gars.
Salut Antoine. Nous, on va revenir dans quelques instants pour la suite de l'After avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot. Je vous rappelle que Marseille s'est imposé 2-1 face à Toulouse. Les buteurs Ocampos et Mitroglou pour l'OM. Moubele avait marqué pour Toulouse. Lyon a battu Caen 1-0 en fin d'après-midi. Bertrand Traoré a marqué le but des Lyonnais. On vous attend, supporters de l'OL, au 32-16. Et Nice a battu Guingamp 5-2 avec notamment un quadruplé de Pléa. A tout de suite pour la suite de l'After.
RMC, le Super Football Show, l'After Foot, Nicolas Villas.
Avec Pierre Ducrot et Daniel Riolo, on vous rappelle que Marseille s'est imposé ce soir 2-1 face à Toulouse. Les buteurs marseillais, Lucas Ocampos, Kostas Mitroglou, Moubele avaient marqué pour le TFC Marseille qui garde 5 points d'avance sur l'Olympique Lyonnais à une semaine du match entre ces deux équipes. Tiens, une question, Daniel et Pierre, qui est le favori pour ce match-là? Le Marseille à Lyon.
Moi, l'OM. J'ai pas d'agence de bookmaker à Londres.
Non, mais qui, non, selon moi, si tu me demandes,
bien sûr qu'on n'est pas devant et qu'on va pas dire le résultat, mais on peut se tromper. Mais moi, si tu me demandes sur la dynamique, sur ce que montre l'OM et ce que montre l'OL en ce moment, moi, je te dis Marseille, voilà, et assez facilement, parce que au niveau de l'état d'esprit, je trouve qu'il y a un groupe à Marseille, une fois de plus. Il y a beaucoup plus de cohérence en ce moment dans ce que fait l'OM. Après,
on va évoquer
voilà,
l'OM,
sur un match, bien
instants,
sûr qu'il y a de la qualité à Lyon pour faire quelque chose.
Alors, je suis d'accord. Mais j'ajouterais que Lyon, et ça ressort un petit peu de ce que disent les joueurs, ils ont un état d'esprit qui est pas bon cette année, mais qui sur ce match peut être bon, parce qu'ils ont un état d'esprit à être bon quand ils le veulent, quand ils sont motivés, et surtout les trois de devant. Et je les crois capables sur un match de réussir à faire un résultat, ouais. Et sur un match en plus qu'ils doivent gagner.
Ouais, peut-être. Peut-être.
Si je dois avoir mon agence à Londres, je mise sur l'OM. Mais en même temps, je tomberai pas de la chaise si
Lyon s'impose.
Lyon s'impose. Sur un match comme ça, aussi tendu, ils sont
oui,
capables
d'imposer
un bon combat.
Il y a du talent en plus.
Je me souviens du match aller où ils ont été dominés, ils ont quand même gagné le match. Alors. Le fait qu'ils ne retrouveront pas, je sais pas s'il était question qu'ils retrouvent Fekir, mais en tout cas c'est sûr qu'ils l'auront pas.
On va écouter Bruno Genesio là-dessus dans quelques instants.
Ils l'auront pas alors que l'OM jouera au complet. Laquelle des deux équipes aura un match plus compliqué jeudi soir aussi, ça joue aussi. Ouais, avantage OM, la dynamique elle est indéniablement de leur côté, mais sur ce genre de match-là, les Lyonnais
ça peut répondre
sont capables.
Tiens, il y a quelqu'un qui veut réagir à ce qu'on disait tout à l'heure sur Luis Gustavo, notamment toi Daniel concernant Luis Gustavo. C'est Samir, supporter de l'OM, qui nous a appelé au 32-16. Salut Samir.
Salut Nicolas, salut tout le monde, salut Daniel. Franchement, je suis un fan de l'after. Je vous écoute tout le temps et quand je suis chez moi sur BFM Sport, direct. Daniel, je suis souvent d'accord avec toi, si je peux me permettre de te tutoyer.
Mais je t'en prie, voyons.
Mais franchement, aujourd'hui, comment tu peux dire que Luis Gustavo a été performant sur le terrain?
Bah, comment je peux le dire? Je sais pas, moi, comment je peux le dire.
Bah, redis-le pour voir.
Batteur, tu l'as bien dit, tu l'as
raison. Ouais,
tu l'as
dit,
redis-le. Franchement, honnêtement,
mais qu'est-ce qui t'a choqué alors, Samir?
Je l'ai trouvé extrêmement fatigué. Il a perdu tous ses duels. Il a perdu tous ses ballons dans la transmission, dans le jeu de passe courte. C'est quelqu'un qui perd pas un ballon, il est propre d'habitude. Et là, franchement, ça fait plusieurs matchs, mais aujourd'hui en particulier, je l'ai trouvé vraiment, vraiment pas bon. Et je pense que c'est une question
de
survie.
Je te trouve un peu sévère. Alors, est-ce que c'est parce que je le trouve toujours globalement bon? Mais oui, évidemment qu'il est moins bien que les semaines où il était resplendissant. Je suis d'accord. Mais je le trouve toujours utile à l'équipe, quoi.
Ouais,
à
l'équilibre. C'est ce que j'allais dire. Moi, je peux rejoindre ton avis, Samir, sur le plan technique où effectivement il a peut-être eu plus de déchets que d'habitude. Par contre, il a toujours son importance dans le placement tactiquement. Enfin, c'est toujours lui, tu vois, qui mène un peu les autres et qui guide un peu les autres. Et là-dessus, voilà, il a son rôle à jouer, même quand il est un peu moins bien physiquement, comme en ce moment.
En gros, Samir, la question qui se poserait, c'est tu le trouves un peu moins bien.
Là, tu veux le faire souffler.
Là-dessus, on est un peu d'accord.
Oui, là-dessus,
on est d'accord. Mais Samir, je te pose une question.
Oui.
Est-ce que donc jeudi, il y a un match de Coupe d'Europe, il est moins bien. Ok. Oui. Tu constates que sa forme baisse. Dimanche, il y a le match contre Lyon. Tu l'alignes ou tu le fais souffler?
Mais la question pourrait se poser soir.
Pour l'Europa League ou pour l'Europa League ou pour
le match contre Lyon.
Pour le match contre Lyon.
Jamais de la vie. Never. Jamais je le titulaire indiscutable.
Ah bah voilà.
Mais il faut le faire souffler absolument contre. Il faut absolument. Garcia l'a pas fait souffler une fois. Il faut absolument contre Bilbao au match retour le faire souffler.
Non mais même
ça,
le match. Non mais même le match de soir. Au final, il a fait jamais tourner.
Ce soir,
il y a des choix à faire.
T'as pas Thauvin, t'as pas Payet, si t'as pas lui pour tenir la boutique.
Mais
moi, ce soir, je le fais pas tourner.
C'est pour ça, messieurs.
Si tu le fais tourner, moi, je pense que tu peux perdre le match.
Mais c'est pour ça, messieurs, qu'il y a peut-être aussi pas un accord, mais une discussion entre un entraîneur et un joueur à un moment donné, Garcia et Gustavo.
Après, avec le 3-1, qui peut être Bilbao. Qui peut être aussi. C'est 3-1 là. Oui, c'est 3-1.
Qui peut être aussi ce soir.
Peut-être à Bilbao.
Qui peut être aussi ce soir ce discours entre les deux. Le coach peut tout à fait dire à Gustavo, écoute, gère un petit peu, vas-y un petit peu moins, mais j'ai besoin de toi pour tenir le milieu toujours. Voilà, ça peut être ça aussi de la gestion. Essaye de effectivement moins y aller vers l'avant parce que ce qui nous choque nous, c'est que pendant 5 mois il était énorme, il était devant la défense, mais il allait harceler 20 mètres plus haut. Enfin voilà, et là il le fait un petit peu moins, mais forcément. Et ça peut être un accord aussi, ça peut être une façon de le gérer un petit peu.
Samir. Je suis d'accord, oui, j'écoutais attentivement ce que vous avez dit. Mais là, je le trouve vraiment moins bien. Il m'a tellement habitué à mieux. Il m'a vraiment régalé, cette recrue. Il m'a vraiment régalé. Pour moi, c'était vraiment une très bonne trouvaille de l'Olympique de Marseille.
C'est plus qu'une trouvaille, là.
Franchement, c'est inespéré tellement quand j'ai vu dans la presse Gustavo à Marseille, j'y croyais pas. J'ai dit à mon entourage, jamais il viendra ce mec. Mais franchement, là, il faut le faire souffler parce que ça va être très, très compliqué contre Lyon dimanche. Je pense que là, on s'est mis dans une situation de confort en gagnant ce soir. On peut se permettre de faire match nul, parce que même si on fait un petit match nul à la maison,
on laisse
Lyon à distance, on est en gérance tout le long de la... Après, c'est sûr que si on gagne contre Lyon à domicile, le championnat, il est plié.
Ah ouais, oui, non, c'est là, t'as 8 points d'avance, t'es confort, hein, t'es bien, hein, peux jouer l'Europa League, ce serait génial pour l'OM. Hein.
Ah oui, oui, oui.
Non, mais par contre, il a pas tort, Samir, dans ce qu'il dit, c'est que le match nul profite à l'OM, et dans la gestion du match, dans la physionomie du match, pour Lyon, qui aime pas en ce moment avoir, par exemple, des blocs un peu bas face à lui, ça peut permettre à Marseille d'aborder le match un peu plus tranquillement, bloc bas et contré, ce que l'OL n'aime pas en ce moment.
Et ben, basculons sur l'OL. Merci Samir de nous avoir appelé en tout cas. À bientôt. Samir.
Oui, à bientôt. Merci beaucoup.
Salut, au revoir, Samir. Bonne soirée à toi. Merci Samir. Lyon qui a donc battu Caen en fin d'après-midi, but signé Traoré, victoire 1-0 de l'Olympique lyonnais. Alors Fekir était absent, Fekir qui est blessé au genou droit, qui devrait subir une arthroscopie dans
C'est plus
jours.
Problématique que prévu, visiblement.
Ah,
Ah mince.
Vas-y.
Non, mais c'est ce que tu es en train de dire. Donc ouais. Parce qu'on ne pensait pas, quand il a été absent là, le premier match, que ça durerait autant.
Ouais. Édouard G a mené son enquête.
Arthroscopie, ça veut tout dire et rien dire. Ça peut ne pas être très...
Ça peut être rapide.
Ouais, ça peut être très rapide et pas
mais là, c'est minimum encore 3 semaines.
Ça dépend ce que c'est, quoi.
Encore ouais. 3 semaines minimum, c'est pas vraiment ce qui était prévu au départ. Hein,
alors, il avait déjà subi.
Ça veut dire que là, t'as
le même traitement, il en avait eu pour 3 semaines, effectivement.
Dans les 3 semaines, t'as... match contre l'OM,
Europa League, l'OM,
et l'Europa League, même le tour d'après, non? Il me semble, ou le tour d'après il vient plus tard.
Si ça passe, le premier.
Le quart, je me demande s'il va pas déjà être emmerdé. Parce que 3 semaines, et après faut revenir.
Ouais.
Ah, c'est problématique pour l'OL, hein, sachant que c'est quand même le meilleur joueur.
Alors cela dit, Bruno Genesio, il a été interrogé sur l'état de forme, sur l'état physique de Nabil Fekir. Il n'est pas plus inquiet que ça, l'entraîneur de l'OL. Écoutez-le.
Oui, c'est un gros coup dur pour nous et pour lui. Voilà, une grosse pensée pour lui aussi dans cette victoire, parce que il a déjà beaucoup souffert par le passé des blessures, mais il y a aussi l'autre manière de voir les choses, à savoir qu'il va revenir en pleine forme après la trêve internationale, qu'il va être gonflé à bloc pour le dernier mois et demi de compétition qui nous restera, et il va nous aider pour atteindre les objectifs collectifs, et je l'espère atteindre son objectif individuel, qui est d'aller à la Coupe du Monde.
Voilà, c'était donc Bruno Genesio. On l'écoute
le 5 avril, le quart de finale. Allez.
Messieurs,
et il fait bien de rappeler.
Jeannot Reseyé est avec Morgan Sanson au Stadium à Toulouse en direct. Jeannot, c'est à toi.
Oui, avec Morgan qui nous fait le plaisir de s'arrêter. Morgan, cette victoire, elle n'a pas été si simple que ça, mais par contre, elle est importante au niveau du classement. Hein.
Ouais, comptablement parlant, elle est très importante, sachant que nos concurrents directs avaient remporté leurs matchs respectifs. Après, on savait qu'en venant ici, on allait avoir un match très compliqué. Je pense qu'on a 20-25 minutes jusqu'au but où on a le total contrôle du match. Après, inconsciemment, on recule un peu trop jusqu'à la mi-temps. Et du coup, à la mi-temps, on s'est dit que justement, fallait pas faire ça, et on a essayé de rectifier le tir. Ils ont eu 2-3 occasions assez importantes où Steve nous sauve clairement. Et après, on a su, comme ces dernières semaines, montrer beaucoup de caractère pour arriver à reprendre l'avantage dans ce match.
Le caractère, de la réussite, un bon gardien, c'est tout un amalgame qui fait que malgré l'enchaînement des matchs entre la Ligue Europa et le championnat, avec un match retour important à Bilbao, vous allez pouvoir relever le défi d'aller vous qualifier à Bilbao et gagner le choc contre l'Olympique Lyonnais.
Ça va être l'objectif de la semaine prochaine, ça va être une très grosse semaine pour nous. Mais au vu de la fraîcheur de tout le monde, de la bonne ambiance, enfin des résultats qui vont aussi avec, Il y a tout qui est là pour qu'on remporte ces matchs. Dans ce match encore aujourd'hui, on montre que même si on enchaîne les matchs, on est bien physiquement, donc c'est le plus important.
Il y a un vrai groupe, juste pour finir là-dessus. Il y a des joueurs qui se retrouvent sur le banc, ça vous est arrivé à vous aussi. Il y a des joueurs qui se retrouvent dans le dur et ça râle pas, ça proteste pas. On accepte le fait que dans ce turnover, l'OM peut à la sortie faire une grosse saison.
Ouais, c'est le collectif qui prime sur l'individu. On a beaucoup de joueurs qui peuvent être titulaires comme remplaçants. Quand les remplaçants anti-marques qui sont décisifs, on a vraiment un groupe pour aller loin. Et c'est pour ça qu'on va tout donner jusqu'à la fin.
Merci beaucoup. Merci Morgan Sanson d'avoir été en direct sur RMC et BFM Sport dans l'After.
Merci beaucoup Jeannot Rességuet qui était donc en direct avec Morgan Sanson. On rappelle que Marseille s'est imposé 2-1 à Toulouse ce soir. On est à une semaine du match face à Lyon. Et on évoquait Lyon justement. Lyon
non, qui est à 5 points. Il rappelait Genesio. Oui, c'est Genesio qu'on avait juste avant. C'est un truc qu'on n'a pas mentionné, mais c'est vrai qu'il va y avoir la trêve. La trêve, oui. Ça va permettre à pas mal de mecs de se reposer quand même.
Ouais, mais quand tu parlais du match aller de quart de finale Europa League,
le 5 avril,
finalement, il sera dedans.
C'est le 5
Fekir.
Avril.
Oui, non, mais que Fekir soit peut-être pas là, mais dans l'enchaînement des matchs, là, que les deux
ouais,
équipes.
Ouais, t'as un peu de repos, quoi.
Si elles se qualifient jeudi, toutes les deux, ce qui normalement devrait être le cas, dans la foulée, elles ont le gros choc, et après.
Ouais, si tu peux souffler un peu.
Après, c'est. Voilà, donc je sais même pas si je fais reposer Luis Gustavo jeudi. Hein. Franchement. Là, pour le coup, je lui dis, écoute, on finit la semaine, on fait les deux matchs, là. Et après, lui, il est pas convoqué avec la sélection. Donc,
ouais, ça peut être
il est tranquille, il se repose, hein. Et il termine, il se ressource et il termine.
Après, le confort que t'as pris au match aller peut te permettre de le faire souffler aussi en Europa League.
Alors, tu sais, franchement, quand il est pas là.
Ouais, c'est pas pareil.
Ouais, au milieu, c'est, tu vois, si les mecs, ils te bousculent, imagine, ils mettent un but d'entrée. Ça peut arriver. Hein.
Bah, juste pour être précis, le calendrier de l'OL. Donc il y a ce match face au CSKA Moscou, le huitième de finale retour de Ligue Europa. Il y a le déplacement à Marseille. Donc il y a un match à Toulouse ensuite. Éventuellement un quart de finale de Ligue Europa donc à jouer. Il y a Metz, Amiens.
Un match à Toulouse.
Oui. Oui pour Lyon.
Ah pour Lyon.
Oui, je te parle de Lyon. Là.
Ok pardon.
Je te parle des matchs pour moi.
Il y a pas de match dans la semaine d'après. Donc et ça leur est pas arrivé souvent d'avoir une semaine.
C'est-à-dire repos, dans la semaine
rien,
après.
Sans rien.
La semaine prochaine, après le choc.
Non. Non, parce qu'il y a la trêve.
Ouais.
Non, il y a la trêve.
La trêve, elle intervient.
Le 1er avril.
La trêve, elle intervient juste après le match de dimanche prochain.
C'est ça.
Exact, c'est ça. Ouais. Et après, il y a reprise le 1er avril, le week-end du 1er avril. Donc là, il joue à Toulouse. Et ensuite, il y a éventuellement un quart de finale de Ligue Europa. On va accueillir Sacha, qui est supporter de l'OL et qui nous a appelé au 32-16. Salut Sacha.
Bonsoir l'équipe, bonsoir messieurs.
Salut Sacha.
Alors comment tu l'as trouvé ton équipe face à Caen aujourd'hui Sacha?
Bah à l'image de ce que Lyon montre depuis maintenant un mois et demi.
Alors, on rappelle que l'OL restait quand même sur une série de 6 matchs en victoire en championnat.
Ouais mais encore une fois c'est une victoire au forceps. C'est une victoire au forceps contre une équipe de Caen bon, qui est séduisante cette année mais... Je trouve que ça manque de caractère, ça manque de charisme, ça manque d'envie. Ça joue pas ensemble, ça joue tout seul. Moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que Lyon fait une addition d'individualité cette année. Et le problème, c'est que ça avance pas en équipe, ça joue pas ensemble. Ça joue pas ensemble. Et encore une fois, on vient mettre un but vraiment opportun sur la deuxième période avec Traoré, bon, qui est un des joueurs qui fait, je trouve, pour moi, qui est le meilleur joueur lyonnais pour la deuxième partie de saison. Mais je trouve que voilà, ça manque de charisme, ça manque d'envie, ça manque de jeu ensemble, ça manque de solidarité cette équipe.
Tu la sens l'absence de Fekir ou pas plus que ça?
Un petit peu quand même, parce que c'est vrai que bon, ça, il distribuait bien le jeu, mais encore une fois, l'image de Fekir, ça reste aussi une individualité, je trouve. Même si depuis qu'il a pris son rôle de capitaine, il essaye quand même d'apporter, d'être solidaire avec les autres, mais je trouve que ça reste quand même trop technique, mais dans le sens vraiment trop individuel, à garder trop le ballon, à pas assez distribuer, même si c'est vrai qu'il fait du bien quand même et qu'il distille les bons ballons. Voilà, je trouve que même dans le système de jeu, c'est pas l'absence de Fekir pour moi. Alors certes, ça me fait mal, mais c'est pas non plus le principal problème à Lyon cette année. Quoi. C'est pas le principal problème. Le principal problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une addition d'individualité et on n'a pas la solidarité qu'il y avait à l'exemple de la saison dernière, par exemple, où il y avait Tolisso, Lacazette, où les mecs jouaient vraiment ensemble. Quoi. Cette année, j'ai l'impression que Lyon, ça joue pas ensemble.
Excuse-moi, Sacha, je suis à peu près d'accord, mais l'année dernière, vous en étiez au même point. Hein. Vous avez fait quatrième et demi d'Europa League avec ce que vous pouvez très bien refaire cette année, hein, avec l'équipe qui semble moins te plaire. Hein.
Ouais, mais après, je sais pas si tu te rappelles, Daniel, on prenait des buts, on en prenait beaucoup, après, on en marquait beaucoup plus.
Il y avait un peu plus de vie dans les matchs.
Il y avait plus de panache.
Il y avait un petit peu plus, ouais. Tu t'ennuyais moins, tu veux dire.
Exactement. Ouais, mais la brillance, c'est important.
Non, mais bien, évidemment que c'est important.
Je voulais être sûr que c'est ça de qui parlait. C'est ce qu'on voit à chaque fois, c'est Depay qui prend le ballon sur la gauche, on sait qu'une fois sur deux il va perdre le ballon parce qu'il va tenter des trucs, un problème qu'il va
arsiner. Et il a raté 4. Des trucs aujourd'hui encore.
Encore.
Non, Memphis, je répéterai chaque semaine, je ne comprends pas ce qu'il fait. Je ne comprends pas comment il joue au foot en fait, ce gars-là.
C'est ce principal souci-là et c'est à l'image du truc. Mariano devant, c'est pareil. C'est c'est un joueur qui a un énorme potentiel, mais il joue pas ensemble, il joue pas avec les uns les autres.
Et c'est le même problème depuis le début de la saison. Hein. On constate toujours le même problème.
C'est le souci. C'est le souci. Après,
Et voilà, tu le sens comment le match de la semaine prochaine face à Marseille alors?
Moi personnellement très mal, parce que je trouve que Marseille, au contraire de Lyon, a aujourd'hui, et l'a encore prouvé ce soir contre Toulouse, a un mental, a des joueurs qui sont capables de faire des différences. Bon, en même temps on dirait Mitroglou, il en fait 1/5, mais en même temps c'est ce que...
Enfin, il est décisif ce soir, il joue 10 minutes le mec, il marque le but de la victoire.
Ouais. C'est clairement ça, et aujourd'hui sur le banc lyonnais, on n'a pas ce genre de joueur qui peut faire la différence à un moment donné, parce que quand on voit Genesio qui s'entête à faire rentrer Cornet, qui a un niveau catastrophique pour moi depuis le début de saison de l'OL.
Depuis toujours même, non?
Ouais, on est à peu près d'accord là-dessus, c'est surtout, voilà, moi je pense que Marseille a beaucoup plus de mental que Lyon, et je donnerais franchement Marseille gagnant sur le prochain match, et ce sera mérité au vu de la deuxième partie de saison qu'ils font et du jeu qu'ils produisent.
Eh ben c'est dit, merci Sacha de nous avoir appelé.
Merci à vous, messieurs. Bonne soirée. Ciao,
à bientôt, Sacha. Voilà, on rappelle que Lyon s'est donc imposé 1-0 face à Caen. Le buteur, c'est Bertrand Traoré. Juste, alors, Lyon a quand même pas été serein dans ce match-là. En face, il y avait Caen, qui est la pire attaque à l'extérieur en championnat. Ils ont claqué 18 buts en 14 déplacements. Et en plus, ce soir, ils étaient privés de Santini et de Damien Da Silva, qui sont deux joueurs importants, que ce soit en attaque ou en défense. Hein. Non mais c'est dire quand même, ça relativise un peu le...
C'est pas anodin, c'est des absences importantes. Je vais pas parler du match, j'ai pas pu le voir, moi je commentais, en même temps.
T'as pas raté grand chose.
Mais apparemment, j'ai pas loupé grand...
Non mais t'as eu un acte fort aujourd'hui. Tu t'es désabonné du compte Twitter de Jean-Michel Aulas.
Ah ouais, ça m'a... Ça m'a gavé.
Pas encore fait, ça.
Ah ça m'a gavé, tu sais quoi,
c'est les terroristes, ça t'a saoulé, les terroristes.
Il y a eu les terroristes, il y a eu Nico Puydebois, j'ai joué un an à Strasbourg avec lui, c'est une crème.
C'est la suite de ça, hein.
Ouais, c'est la suite de ça. Et enfin, j'ai pas apprécié, puis après c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que le vase était déjà bien rempli. Je me suis dit plutôt qu'à chaque fois réfléchir, essayer de trouver pourquoi il fait ça et dans quel but, etc. J'ai préféré ignorer.
Non, moi je pense que là, de plus en plus, ça fait un petit bout de temps que je dis, je pense qu'il fait plus de mal que de bien à son club, mais j'ai l'impression qu'il s'en rend pas compte et que personne ne s'en rend compte.
Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui s'en rend compte.
Depuis plus de mois, depuis le tweet sur ces deux bois.
C'est que personne ne peut lui dire.
Boycott de la presse à la conf de jour et tout, je sais pas. Pour moi, il.
Non, mais par contre, tu n'y crois pas vraiment quand tu dis que personne ne s'en rend compte.
Bah, au club, tu penses qu'il y a des gens qui s'en rendent compte.
Mais bien sûr.
Non, mais au-delà de ça, mais les supporters.
Les gens sont comme toi et moi, ils s'en rendent compte.
Vous avez fait gaffe, il y a eu deux banderoles qui ont été déployées lors du match. Les banderoles, elles sont en gros contre le club, pas contre la presse ou quoi que ce soit. Enfin, tu sens que voilà, faut arrêter les excuses. Une année.
Ouais, culture de l'excuse, tout ça.
Voilà, exactement.
Écoute, très franchement, cette année, et là, ils sont encore dans le coup. Qu'on le veuille ou non,
il y a le foot et puis il y a le reste, tu vois, c'est surtout le reste moi qui m'énerve. Le foot, on doit pouvoir tous en parler.
Le reste passera parce que à chaque fois ils arrivent à le faire passer. Si jamais ils terminent 3 ou je sais pas ce qu'ils peuvent faire en Europa League, mais s'ils font la même saison que l'année dernière, la pilule, il essaie de la faire avaler l'année dernière. Si c'est la même, c'est-à-dire il fait encore 4e, c'est-à-dire il ne va pas en Ligue des Champions l'année où Marseille. Qui, il ne faut pas l'oublier, et ça on l'oublie, parce que quand on parle de Marseille, on a toujours l'impression qu'ils sont là. Mais Marseille, ils n'ont pas fait une saison comme ça depuis longtemps. Années. Ouais, et que Marseille passe devant Lyon, d'abord en ayant un budget quasi deux fois supérieur, et en étant à la rue, parce que Marseille, c'était que dalle il y a quoi, 16 mois. C'est rien au moment où Matt arrive, c'est plus rien l'OM.
Et mais même déjà, au début de saison, on ne les voit pas comme ça.
Déjà, l'OM passe devant Lyon.
C'est symbolique.
Je sais pas comment le club va pouvoir vivre un truc pareil. Enfin,
c'est symbolique.
Il faut une remise en cause. Tu vois, des remises en cause, il en faut pas que au PSG. C'est pas que le PSG qui doit exploser à chaque fois qu'il leur arrive quelque chose et qu'il faut révolution. On le sait, on critique et Dieu sait si on l'a fait cette semaine, et qu'il y a énormément de choses à changer au PSG. Personne n'a jamais cherché à mettre la poussière sous le tapis. À Lyon, moi, je peux pas dire que je leur souhaite, parce que sinon, ça veut dire que je souhaite pas aux autres la même chose. Mais s'ils font 4 et Europa League, peu importe ce qu'ils font, quoi, à part s'ils la gagnent. Il y a des choses à faire. Franchement, là, il va falloir quand même qu'il se pose un peu deux, trois questions. Parce que ça va bien de balancer et d'insulter tout le monde sur Twitter, mais au bout d'un moment, tu vois.
Ouais, voilà,
c'est ça qu'ils attendent de leur club.
Le sportif, c'est quelque chose, on doit tous pouvoir en discuter, en parler, analyser et donner son avis sans qu'à chaque fois ça dérape comme ça et que ça parte sur d'autres choses, quoi. C'est assez terrible et ça m'a juste gavé. Bon, il s'en fout, ça m'a gavé.
Dans quelques instants, on va revenir sur le carton de cette journée, du moins de ce dimanche, chez Nice qui a battu Guingamp 5-2 avec un quadruplé de play. On va l'écouter dans quelques instants dans l'after. On vous attend au 32-16, supporters de Nice et de Guingamp aussi, avec Daniel Riolo et Pierre Ducrot. A tout de suite.
RMC, le super football show, l'after foot, Nicolas Villas.
Toujours en compagnie de Pierre Ducrot et de Daniel Riolo. Vous êtes là également sur le hashtag RMC Live, bien entendu. Ce soir, Marseille s'est imposé 2-1 face à Toulouse. Lyon a battu Caen 1-0. Les Marseillais qui gardent 5 points d'avance sur l'OL. Et puis cet après-midi, Nice a battu Guingamp 5-2 avec, c'est assez rare quand même pour le signaler, un quadruplé de Pléa, l'attaquant de
l'OGC Nice. Plus un poteau.
Oui,
il aurait pu remettre un cinquième.
Il a mis un beau but notamment.
D'ailleurs. Il était en feu.
Il était pas mal. On va l'écouter d'ailleurs, Pléa, parce que c'est un moment assez rare. Voilà, vous les voyez sur BFM Sport.
Il y a eu des beaux buts, hein, même collectivement. Il y a eu des beaux buts.
À noter que Grenier avait marqué également pour Guingamp. Celui qui avait marqué le premier but d'ailleurs sur penalty à la 9e minute de jeu. Et puis ensuite, il y a eu le festival Pléa qui a donc
claqué. Nice peut gagner sans Balotelli.
Oui, c'est le cas. Ouais. C'est le deuxième meilleur buteur du club, du coup, Pléa. Alors ça aide quand tu claques un quadruplé.
Celui-là, il est beau aussi. La poitrine enchaînement, là, c'est beau aussi.
Qui comptait seulement une victoire sur ses 6 derniers matchs de championnat avant cette rencontre à Guingamp, et bien qui enchaîne et qui revient à un point de la 5e place. Pléa, qui a la banane forcément après ce quadruplé face à Guingamp.
C'est vrai, 4 buts, quadruplé, c'est très très beau. En plus, il y a la victoire au bout. C'est un super cadeau d'anniversaire et franchement, c'est beau. À certains matchs, j'ai un manque d'efficacité. C'est quelque chose que je travaille à l'entraînement. J'ai une grande marge de progression. Mais voilà, je travaille à l'entraînement, je travaille. Et aujourd'hui, y a des jours où tout rentre et c'était aujourd'hui et j'espère continuer comme ça.
Ouais, parce qu'en plus, Pléa, hier, il célébrait ses 25 ans. C'est beau, non ?
Ouais, c'est un beau cadeau. Il se l'est offert tout seul. Enfin, tout seul avec ses potes quand même.
Il avait déjà marqué au match aller en plus, Pléa. C'est plutôt pas mal. Juste quand même parler un petit peu de cette cinquième place. Tu les vois. Pour toi, c'est vraiment l'équipe la mieux armée pour cette cinquième place. Nice,
À l'époque, quand je vous ai dit que je les voyais, j'étais pas spécialement inquiet et que je les voyais bien revenir dans pour une place européenne. C'est dans la course, forcément. Je vais pas te dire que Rennes ou même que Nantes qui continuent à faire ce qu'ils font bien depuis le début de saison après un passage difficile là, au mois de janvier et début février. Mais ils sont dans la course, ouais. Ils sont dans la course. Alors après, est-ce qu'ils sont mieux armés? Moi, ça me plaît un peu plus de voir les matchs de Nice que par exemple ceux de Montpellier. Mais Montpellier, avec ses armes et son organisation très cohérente aussi, est là également. Donc,
je crois que les quatre là peuvent faire le coup de la cinquième place. Mais attends, cette année, le sixième, il peut faire le fameux tour préliminaire où
non,
tu démarres.
Non, c'est le cinquième.
Non, mais même le sixième.
Pourquoi?
Le sixième, il n'est pas dans l'affaire du tour préliminaire du mois de juillet si Paris gagne la Coupe de France.
Non, je crois pas. Non, parce que ça marche plus comme ça maintenant.
Ah, il me semble que si.
C'est ouais.
Non, je crois que c'est la cinquième.
C'est la cinquième place qui a relancé. Bon, continue à parler, je cherche.
Non, mais voilà, je pourrais pas te dire aujourd'hui que Nice est mieux armé que Nantes, Rennes ou Montpellier.
Là, pour l'instant, c'est à fait avec un plan A4, donc avec Nantes, Rennes, Nice et Montpellier qui se tiennent en deux points. Il y a Bordeaux qui est pas très loin aussi, voire même Dijon.
Moi, j'ai jamais fait de plan A4, donc je peux pas te parler de ça. Moi, je sais pas.
Non, c'est pas mal. Non, je voulais parler tranquille pendant que je fais des recherches.
Du coup, il a changé de site internet, Daniel.
Du coup, il a zappé. Non, mais comment tu veux tirer des plans sur la comète entre les quatre, là, honnêtement, Nantes, c'est plus que costaud, ils l'ont prouvé encore.
Non, mais si je te pose la question, c'est parce que toi, en début de saison, tu les sentais.
Oui,
même
ils sont revenus là où je les voyais, c'est-à-dire dans la course pour cette dernière place européenne. Bon, maintenant, voilà, le match d'aujourd'hui te fait dire qu'ils sont dans une bonne dynamique, que ça joue, en plus que ça joue bien. Il y a des buts collectivement qui sont très très beaux. Hein, on parle du quadruplé, mais voilà, il était à la finition, mais il y a des buts collectivement qui sont jolis. Voilà, j'ai une fois de plus, je dirais pas que Nice va finir forcément devant Nantes, Montpellier ou Rennes. Ah
non, pas forcément.
C'est compliqué. Là.
On le sait pas. Quelques infos du jour.
Si le PSG ou Lyon gagne la Coupe de France, le sixième, il fait le truc.
Donc,
du
le sixième aussi.
Là.
Le tour préliminaire.
Ouais, voilà.
Le sixième aussi. Ok. Messieurs, quelques infos du jour.
Il faut juste que ce soit. Non mais Lyon, ils sont plus en Coupe de France. Donc il faut que Paris gagne la Coupe de France.
C'est le PSG.
Voilà. Paris gagne la Coupe de France et voilà.
Ce qui n'est pas impossible.
Ce qui n'est pas impossible. Il reste quand ? Il reste
les Herbiers ou Chambly.
Voilà. Oui. Ce qui n'est pas impossible.
Tu essayes avec c'est fort possible. Tu vois, ça a marché aussi la phrase. Hein.
Tu penses, j'ai dit quoi ?
C'est pas impossible.
Ouais. Ah oui. C'est fort possible.
C'est fort possible.
Ouais. C'est fort possible.
Ça marche aussi.
Ça marche aussi. La Ligue a réagi aux incidents d'hier à Lille. On vous rappelle qu'à l'issue du match nul important entre le LOSC et Montpellier, il y a des supporters qui ont envahi le terrain. Alors la Ligue a balancé un communiqué de quelques lignes. La LFP condamne fermement les débordements survenus hier soir au stade Pierre Mauroy à l'issue de la rencontre LOSC-Montpellier. Dès jeudi, la commission de discipline de la Ligue instruira le dossier des incidents. Alors sachez que Gérard Lopez, le patron du LOSC, s'est exprimé sur RMC Sport.
Ouais, vas-y. Non, non, mais moi, j'attends de voir les sanctions. Et quand il parle de commission de discipline, c'est
La commission qui va décider.
Ouais, voilà, c'est des sanctions pour qui ? C'est pour des sanctions pour le club ?
Bah, certainement, oui.
Moi, j'en ai un peu marre de ça parce que tu peux mettre n'importe quel service de sécurité que tu veux mettre là. À un moment donné, quand t'as, je sais pas combien de débiles qui veulent envahir un terrain et qui poussent, comment tu fais pour quand t'es un club de football pour contenir ça à un moment donné?
Tu veux mettre
50 flics devant chaque entrée?
Oui, mais en tant qu'organisateur, c'est de ta responsabilité de faire ça.
Comment je sais, mais c'est un peu facile ça. C'est un peu facile.
Pour le coup, j'en ai parlé, moi, avec des gens de la Ligue pour notamment l'histoire de Balotelli. Alors, je suis en train d'écrire un livre sur le foot et le racisme notamment. Et vous savez qu'il y a eu l'affaire Balotelli. J'en avais parlé notamment avec l'un des responsables de la Ligue. Il faut savoir que les sanctions à l'égard du club ou vis-à-vis des personnes physiques dépendent justement de la position du club. En gros, si le club joue le jeu et qu'il porte plainte, qu'il mène son enquête, qu'il met à disposition les vidéos qu'ils ont de sécurité, etc.
À disposition, on les a tous vus, les vidéos.
Mais justement, donc mais si le club, en gros, mène son enquête de son côté, la Ligue peut être un peu plus clémente, on va dire. Mais là, c'est une question d'organisation, c'est-à-dire
j'ai toujours vous connaissez ma position par rapport à ça. J'ai toujours été, moi, très proche des supporters des clubs où je jouais, etc. J'ai toujours prôné un foot avec beaucoup de supporters parce que c'est ce qu'on adore quand on voit un match de foot.
Oui, mais justement,
mais à un moment donné, quand tu as ce genre de comportement débile, parce qu'il n'y a pas autre chose, ou sinon ça va être encore plus sévère, c'est pas l'affaire d'un club. Là c'est effectivement des pouvoirs publics qui face à des images prennent les individus et les punissent, basta.
Ok, on est tous d'accord là-dessus. Les images, c'est facile à identifier. Au bout d'un moment, une fois que t'as passé le, j'ai fait un papier là-dessus que j'invite les gens à aller lire.
Sur le blog, sur RMC.
Une fois que on s'est tous indignés sur le fait que c'est pas bien, que le supporter, machin, tout ça. Évidemment, on est d'accord. Après, à un moment, il va falloir quand même qu'on comprenne que d'abord le foot, ça fait très longtemps. On va pas prendre là des livres d'histoire pour expliquer que c'est un peu plus qu'un sport, que c'est un fait social, que le foot rencontre depuis pratiquement toujours, en tant que fait social, l'économie, et que parfois c'est brutal, la rencontre entre les deux. Que t'as un type qui arrive de nulle part, qui prend un club et qui joue au Monopoly avec, et qui coule le club.
Je suis d'accord avec toi, mais c'est autre chose pour moi. Ça n'excuse pas.
Personne n'excuse.
Ça peut l'expliquer.
Personne n'excuse.
Non. Ça l'explique peut-être, mais ça n'excuse
pas. Personne n'excuse. On n'est pas là pour excuser.
Il faut qu'il y ait une description des faits.
Pas juge ni avocat.
Oui. Tu as la même chose. Tu as eu, alors qu'en Angleterre, franchement, ne serait-ce que d'avoir l'audace de penser à faire ça, sachant comment la base, c'est beaucoup plus dur qu'ici. À West Ham, ça a été fait. À Hambourg, il y a une manifestation également. Il y a ce double jeu des responsables, quels qu'ils soient, par rapport aux supporters, me fatigue. Mercredi soir, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont fermé les yeux sur tout ce qui s'est passé, et devaient forcément anticiper qu'il y aurait les débordements
dans les tribunes avec les fumigènes,
avec
etc.
Les fumigènes et ça, pour que ça rentre
autant en nombre, etc. Oui, je suis
donc
d'accord.
Il y a quelques années, ils ont viré tout le monde. Là, maintenant, ils referment les yeux parce qu'ils en ont besoin. Donc, il y a toujours ce « on en a besoin, mais on peut pas contrôler ». On excite, on allume le feu, comme fait souvent, par exemple, Aulas, quand il excite avant un derby et tout. Et puis, quand ça déborde, c'est pas bien, c'est scandaleux. Et généralement, on s'arrête juste à l'indignation et au scandale.
Tu vas condamner,
Pierre, tu vas condamner les supporters qui envahissent la pelouse, et c'est normal, ça ne se fait pas, c'est scandaleux. Il n'y a rien qui justifie la violence. Gérard Lopez, lui, manie une autre forme de violence. Il est venu, il a coulé le club. Quand dans 3 ans ou dans 2 ans, Lille végète en Ligue 2, peut-être pas ces mêmes mecs-là, à moins que leur interdiction de stade soit terminée, vont revenir. Eux, ils vont être derrière le club, ils vont essayer de remonter. Et il y aura les mêmes reportages des médias pour dire « Regardez comme c'est formidable !» Et maintenant, ils sont tous derrière.
Je suis d'accord sur le fond.
Vas-y, Pierre, on était là.
Nous, on était là. Et peut-être même qu'il y en aura un dans une émission qui dira « Moi, j'avais envahi ce soir-là » et que 2 ans plus tard, ça fera rigoler, ça fera « Hey !»
T'as vu le reportage qu'on est en train de faire avec les mecs et tout.
Alors, je suis d'accord sur le fond,
cirque,
Daniel.
Moi,
je
suis d'accord. Cirque, soit on le dénonce complètement, soit on démonte. Mais malheureusement, on peut pas. Le problème, c'est que ça nous pousse à avoir une vision cynique du truc. Aujourd'hui, non, t'as un mec. Michel Seydoux qui a galéré pendant 10 ans avec ce club à pas pouvoir faire ce qu'il a voulu faire, mais enfin il l'a fait. Et puis il s'en est débarrassé et il l'a vendu. Et il l'a vendu à un type qui est en train de faire n'importe quoi et qui va le couler.
Alors si ce type, hein, comme tu l'appelles, Monsieur Lopez, fait n'importe quoi, c'est une chose. Tu peux effectivement, quand t'es supporter du LOSC, te lever contre ça, le dire, le faire savoir, ouais,
ça peut crier. Ça peut coûter des emplois, le crier.
Oui, je suis d'accord avec ça. Mais c'est lourd. C'est encore un autre problème. Je pense que quand t'es supporter du LOSC aujourd'hui, tu as autre chose à faire que ce que ces 200 ou 300, je sais pas combien ils étaient,
ont fait.
Parce que ça va pas leur servir,
encore
et parce que ça va pas servir
Pierre,
le LOSC, ça va pas servir les tribunes.
On revient pas là-dessus, on est d'accord. Moi, je ne te parle pas de ça, j'essaye d'aller au-delà de ça.
Faut être plus intelligent que ceux qui font des conneries ailleurs, dans ce club. Faut l'être plus intelligent, sinon à un moment donné, on n'en finira jamais à ce moment-là.
Soit tu proposes à ce peuple de réagir autrement, alors que ce soit avec des banderoles.
C'est ce que je te dis, il y a d'autres moyens de réagir que ça.
Mais bien sûr, mais moi, en aucun cas, je n'excuse l'envahissement et la violence d'aller prendre les gens. Mais en plus, surtout que là, les pauvres, les joueurs, ça va les mortifier. Ils voudront même plus jouer. Je pense
ouais,
même que
c'est
ça peut être
on va écouter. Et puis c'est une arme, normalement, pour les équipes du Nord, c'est une arme en public, normalement.
On va écouter Gérard Lopez. Il était, Jean Baumel l'a rencontré aujourd'hui. Alors lui, il s'est déclaré surpris et extrêmement fâché également après les envahissements d'hier. Gérard Lopez.
J'étais d'abord surpris et deuxièmement extrêmement fâché parce que ça arrive dans un stade de foot. C'est des images qu'on n'aime pas voir, qu'on veut pas voir. On sait qu'on est un club très familial, donc on a des familles, des enfants qui ensemble ont vu ça. Donc ouais, j'étais fâché, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour ce qui est des entre guillemets, soi-disant supporters, on prendra des décisions fortes dans les jours à venir dès qu'on saura en fait qui est à l'origine de ça et ce qui s'est passé vraiment.
Bah, quand il dit soi-disant supporter, lui c'est un soi-disant président.
On va accueillir Manu
qui a soi-disant de l'argent.
Peut-être, mais peu importe, tu peux pas voir des joueurs qui se frappent avec leurs supporters.
C'est pas possible.
Je le condamne autant que toi.
J'aimerais
décrire ce qu'est le football aujourd'hui,
oui,
qui n'est pas un
mais
sport.
Mais ce qui ne veut pas dire qu'on
il
doit l'accepter.
Il faut comprendre qu'on n'est pas face à un sport et que quand tu es dans quelque chose qui dépasse le sport, mais ça l'a toujours dépassé.
Oui,
ça l'a toujours dépassé.
Mais c'est de plus en plus,
Ça l'a toujours dépassé. Le foot, c'est là où vient le politique. La star est dans les tribunes. C'est le seul sport où t'as des stars d'autres sports qui viennent là et qui voient même leur idole.
Alors qu'elles-mêmes sont des
idoles par ailleurs. Le foot, c'est au-delà. C'est pour ça que c'est si populaire. C'est pour ça que la Coupe du Monde rassemble autant de gens.
C'est pour ça que c'est si rationnel parfois aussi.
C'est pour ça.
Juste les gars, il reste une trentaine. On accueille Manu.
Passionné.
On accueille Manu. Et ça veut pas dire qu'on condamne pas.
Et je n'y suis plus que dalle.
Salut Manu.
Oui, bonjour, ouais, à tous.
Vas-y, bonsoir. Manu. Alors Manu, qu'est-ce que t'en as pensé de cet envahissement de terrain hier? Alors, on a écouté un extrait de l'interview de Gérard Lopez.
Je veux dire, je m'en doutais légèrement que ça allait un jour chauffer, parce que quelques matchs à domicile, on entendait que ça allait arriver. La dernière fois, il y a eu un débordement dans la tribune présidentielle. De toute façon, à un moment, ça allait chauffer. Fallait pas s'étonner. Et mercredi, qu'est-ce qu'il a fait, Lopez? Je sais pas si vous avez entendu ce qu'il a fait. Il est allé voir Luchin, il était voir les joueurs. Et qu'est-ce qu'il a mis après? Qu'est-ce qu'il a dit comme propos après? Vous vous souvenez?
Non, vas-y, dis-le alors.
Mais qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Je serais content que les supporters ils gueulent sur les joueurs. Mais à la fin, dire ça, son propos.
Oui, voilà.
Parce
qu'on excite avec les déclarations et puis on les oublie, les déclarations.
Voilà. Eh ben, il a tort aussi. Il a tort aussi.
Mais déjà,
je fais une différence entre des mots et des actes.
Voilà.
Je suis désolé.
Attendez, voilà. C'est pour ça que je dis, je comprends l'énervement, mais je ne cautionne pas ce qui a été fait. Après, comme je dis, il y a les DVE. Les DVE, eux, ils ne sont pas tous cons. On va dire le mot, ils ne sont pas tous cons. Ce ne sont pas tous eux qui sont allés sur le terrain.
Non, bien sûr.
Attention.
Non, on fait pas une généralité. Hein. Et moi, pour l'avoir connu du côté du Parc des Princes, je ne ferai jamais une généralité. Je condamne uniquement les quelques idiots qui ont été sur la pelouse avec...
Pour finir, Manu.
Donc moi, je suis contre, pour l'instant, ce monsieur Lopez qui, soi-disant, est président. Parce que on l'entend jamais. On attend des réponses, on les entend encore et encore. Campos, c'est une fois de temps en temps. Inglot, c'est une fois de temps en temps. Mais il est où, en fait, ce club? À part les joueurs qu'on entend essayer de se battre, il est où, ce club?
Ouais, mais moi, je suis d'accord avec toi sur ça, Manu.
Et vous savez ce que j'ai entendu hier soir? Il y a un supporter qui a dit, tout haut, et c'est pas faux, qui a dit, moi, je suis prêt à acheter des pâtes pour pouvoir m'acheter un abonnement, pour pouvoir venir supporter.
Ah oui.
Alors merci Manu qui nous a appelé au 32-16 supporter du LOSC, qu'il est déjà venu. Le RMC Poker Show nous attend, il faut que Daniel monte bien entendu. Merci Pierre Ducrot, merci Daniel Riolo. On te passe la
main. Les amis.
Bonne soirée, merci.
RMC, le super football show, l'After Foot.